Chapitre 2e. Goethe, dans un morceau célèbre de Wilhelm Meister, compare Hamlet à un chêne planté dans un vase précieux qui ne devait porter que des fleurs gracieuses. Les racines se développent et le vase est brisé. Tel un être beau, pur, noble, éminemment moral, mais dépourvu de l'énergie physique qui fait les héros, périt sous une charge qu'il ne peut ni porter ni rejeter. Cette manière de voir a dominé toute la critique depuis un siècle. Bien qu'il n'y ait pas deux auteurs qui s'accordent tout à fait sur le caractère de Hamlet, tous sont unanimes à reconnaître en lui un penseur profond et mélancolique qu'une triste fatalité condamne à ramener dans l'ornière le char dévoyé du temps. De nos jours, des auteurs subtils ont développé une théorie directement opposée à celle de Goethe. Pour eux, le Hamlet de Shakespeare est aussi résolu, aussi actif, aussi prompt et fécond en ressources que celui de Belleforêt. Les obstacles ne viennent pas de lui, mais des circonstances où il est placé. Dans la nouvelle, le meurtre de l'ancien roi a été commis publiquement, hautement avoué et expliqué par le coupable. Le rôle de Hamlet se borne à épier une occasion propice pour venger le sang par le sang, et en attendant, à se soustraire aux embûches de son oncle. Dans la pièce, au contraire, le crime a été secret. Personne ne le connaît, personne ne le soupçonne. Seul Hamlet en a été informé par une révélation mystérieuse. L'ombre de son père lui a demandé vengeance, mais ne lui a pas dit comment il devait se venger. D'ailleurs, à quel péril ne s'exposerait pas Hamlet en frappant? Quel motif allégué pour justifier sa conduite? Comment persuader aux Danois que ce n'est pas l'ambition ou la haine qui l'ont fait agir? Comment leur faire croire à un forfait inouï qui n'a pas eu de témoin et dont il est le garant unique et suspect? Ajoutez que même après son entrevue avec le spectre, Hamlet n'est pas assuré de la véracité de celui-ci. Il a ses doutes, ses scrupules. Le spectre que j'ai vu peut être l'imposteur. Satan prend quelquefois un aspect séducteur. La ruse de l'intermède dissipe ses doutes, mais laisse subsister ses légitimes hésitations. Après le malheureux meurtre de Polonius, il est plus occupé à défendre sa vie contre les machinations du roi qu'à comploter la perte de celui-ci. Dans ce duel inégal, il fait preuve d'un sang-froid et d'une énergie qui doit faire écarter de son caractère tout soupçon de mollesse. Puis il s'apprête de nouveau à agir, mais les événements marchent plus vite que lui, et un massacre fatal enlève les deux combattants, non sans lui avoir fait goûter en mourant la satisfaction suprême de la vengeance assouvie. Ces deux théories opposées ne sont pas fausses, mais exclusives. Elles ne voient l'une et l'autre dans Hamlet que ce qu'elles veulent y voir. Elle néglige à dessein la moitié des éléments du problème. Assurément, Hamlet, comme le dit Ophélie, a la langue du savant, l'œil du courtisan, mais elle ajoute l'épée du soldat. Il nous apprend lui-même qu'il n'est ni méchant ni fiévreux, et certes, son esprit est plus tourné vers la méditation morale et philosophique que vers l'activité désordonnée des natures médiocres. Mais comment ne pas tenir compte du courage et de la promptitude qu'il s'est montré à l'occasion. Hésite-t-il un instant à suivre le fantôme, quand ses amis, des soldats pourtant, cherchent à le retenir? Sa conduite sur le vaisseau et pendant le combat avec les pirates ne témoigne-t-elle pas d'une singulière audace? Et blessé mortellement, ne trouve-t-il pas encore assez de force pour courir sus au roi et l'envoyer rejoindre sa mère? Voilà ce qu'il faut répondre aux partisans de la première opinion. Quant à ceux de la seconde, on n'a qu'à leur conseiller de relire la pièce. Ils n'y trouveront pas dans un seul endroit l'expression des calculs plausibles mais gratuits qu'ils prêtent à Hamlet. Ils le verront, au contraire, se répandre à chaque instant en reproches sur sa faiblesse, sa lâcheté, son penchant à la rêverie et à l'inaction. Il va même parfois jusqu'à l'invective. Il n'est pas seul de cet avis. L'ombre de son père, quand elle lui apparaît pour la seconde fois, lui dit « Souviens-toi de ton père. je viens de tes esprits dissiper la torpeur. » Même le peu que nous savons du tempérament physique de Hamlet, il est gras et a la laine courte, doit nous faire rejeter une thèse spécieuse, mais trop absolue, nettement contredite par les textes, et qui ressemble plus à un paradoxe ingénieux qu'à une conviction raisonnée. Il est constant que Hamlet réunit en lui des qualités contradictoires, non seulement dans sa volonté, mais encore dans son esprit et dans son caractère moral. De même qu'il est actif et indolent, audacieux et timide, il est sage et exalté, éclairé et superstitieux, humain et cruel, ami de la vertu et sans scrupule, ami de la franchise et dissimulé. Éclairons ces contrastes par quelques exemples. Hamlet est sage et exalté. La sagesse de Hamlet se peint dans la profondeur de ses réparties, dans la sublimité de ses réflexions sur l'homme et les choses. Son exaltation maladive éclate dans les propos incohérents qu'il tient après son entrevue avec le spectre, dans son rire satanique, ses chansons, ses plaisanteries après l'intermède, dans la fureur à laquelle il s'abandonne sur la tombe d'Ophélie. Sans doute il n'est pas fou. Il feint seulement la démence pour dérouter ses adversaires et pouvoir donner libre carrière à ses sarcasmes insultants. Sans doute ceux qui ont cru découvrir une folie véritable sous cette folie simulée n'ont pas montré plus de pénétration que Polonius ou Ophélie. Mais la terrible révélation du fantôme a produit un ébranlement profond dans une âme déjà triste et qui supportait avec impatience le fardeau de la vie. Mais la chute complète de toutes les illusions qui pouvaient lui rester sur la valeur des hommes, le devoir de renoncer à ses plus chères occupations, à un amour pur et passionné, tout cela a creusé en lui un vide où les vapeurs de sa fantaisie désordonnée s'agitaient bouillonnent en liberté. Mais enfin, l'habitude même de jouer la folie surexcite toutes ses puissances nerveuses et lui laisse, même aux heures d'accalmie, quelque chose de la fièvre dont il s'est fait une seconde nature. « They fool me to the top of my bent. » Cette exclamation intraduisible explique toute la démence apparente de Hamlet. Hamlet est humain et cruel. N'est-il pas touchant dans l'ardeur de son dévouement filial, dans le désespoir qu'il montre en recevant les confidences de son père, dans la bonté qu'il témoigne aux petits, aux faibles, aux soldats, aux comédiens, aux matelots, dans les supplications qu'il adresse à sa mère pour l'arracher aux démons qui la torturent? Dans cette scène même avec Ophélie, qu'on a taxée bien à tort de dureté, la contrainte qu'il impose à ses sentiments n'est-elle pas visible? Ne le voit-on pas, au sortir de son monologue, commencer sur le ton de la douceur pénétrée, de l'émotion, de l'adoration? « Nymphe, de mes péchés souviens-toi, je te prie, dans tes dévotions. » Puis, tout à coup, il se rappelle le rôle qu'il doit jouer. Il soupçonne quelques ruses, il fait taire son cœur, rembrunit son front, la repousse avec une brutalité trop exagérée pour n'être pas feinte et laisse percer même dans ses amers reproches la trace d'un amour mal étouffé. Que ceux qui doutent de la sincérité de cette passion sacrifiée au devoir relisent les vers que Hamlet adresse plus tard à Laërte sur la tombe d'Ophélie. J'aimais sa sœur. Des frères, fussent-ils 30 000, avec tout leur amour, n'atteindraient pas le mien. A-t-on jamais peint par une image plus frappante la distance incommensurable qui sépare l'amour fraternel le plus vif de la passion d'un amant? Et d'autre part, comment nier que cette nature si humaine ait ses heures de cruauté? Avec quelle insouciance il emporte le cadavre de Polonius et le poursuit de ses railleries jusque dans la mort? De quel ton dégagé il parle de ses deux camarades qu'il envoie au supplice sans leur laisser le temps d'aller se confesser, alors qu'il est plus que probable qu'ils n'ont eu aucune part dans la perfidie du roi? Enfin, n'est-elle pas horrible la raison qu'il allègue pour ne pas frapper le roi en prière, et où l'on a vu bien mal à propos le sophisme de l'indécision qui cherche à se faire illusion sur elle-même? Hamlet est ami de la franchise et dissimulé. Il aborde son oncle non pas seulement comme un meurtrier, un adultère, un usurpateur, un ivrogne, mais encore et surtout comme un hypocrite. C'est cette hypocrisie qu'il note dans ses tablettes. Notons qu'un homme peut sourire, sourire et pourtant être un coquin. C'est le mensonge qu'il impatiente dans Polonius, sous la forme d'une diplomatie côteleuse, qui croit arriver au but par route détournée et qui n'est après tout que sottise, indiscrétion et présomption ridicule. C'est le mensonge, sous la forme d'une amitié affectée, qu'il déteste dans Rosencrantz et Guildenstern. Bonne bête, à qui je me confie ainsi qu'à deux serpents. C'est un petit mensonge d'Ophélie. Mon père est à la maison, qui provoque sa diatribe sanglante contre la vanité des femmes. C'est le mensonge qu'il cherche à extirper du cœur de sa mère. Le mensonge sous la forme des hyperboles dans l'expression de la douleur chez Laërte, qui le met hors des gonds. Le mensonge sous la forme de l'adulation et des circonlocutions prétentieuses qu'il raille chez Osric. Ce ne sont pas les qualités d'esprit d'Horace qui lui ont fait mettre un sceau sur son âme, c'est sa parfaite loyauté, son désintéressement, son horreur de la flatterie. Regardons maintenant le revers de la médaille. Cette âme, que nous avons vue si sincère, se complaît dans une comédie prolongée dont l'utilité n'est pas bien démontrée. L'équivoque, les réponses à double entente sont ses armes favorites. Il ne recule pas devant un faux audacieux pour se sauver et perdre deux imprudents. Il s'excuse de ses mauvais traitements envers Laërte par un mensonge sans vergogne. Bref, on dirait que le commerce assidu des comédiens, dont il entend si bien l'art, a fini par exercer sur l'esprit de Hamlet une sorte de contagion. Il assiste à la vie comme un spectacle, et il s'y comporte comme un acteur. Hamlet est éclairé et superstitieux. Il a poussé fort loin ses études. Ophélie l'appelle un savant. Il aime et cultive la poésie. Il est versé dans la philosophie. Il connaît l'histoire. Son âme a horreur de tout ce qui est vulgaire. Sa pensée se reporte constamment vers les sujets les plus élevés de la spéculation. Il tire du fait le plus insignifiant une conclusion morale. Il généralise même à l'excès. Parce que sa mère a commis un adultère, toutes les femmes font des monstres de leur mari. Parce que son oncle a commis un fratricide, tous les hommes sont des vauriens, des drôles. Parce que sa famille a été souillée par d'horribles attentats, le monde entier est un amas hideux de vapeurs pestilentielles, une prison dont le Danemark est le plus noir cachot. Cette habitude de conclure du particulier au général, jointe à la tournure chagrine de son esprit, fait toute sa misanthropie. Il pousse trop curieusement l'examen des choses. C'est une victime de la logique à outrance. Malgré cet abus du raisonnement que lui reproche son ami, il est crédule. On lui annonce un fait prodigieux, une apparition, il n'en doute pas un instant. Plus tard, l'idée ne lui vient pas qu'il ait pu prendre pour l'ombre de son père quelque imposteur ou quelque vision de son cerveau troublé. Il se demande seulement si ce n'est pas Satan qui a revêtu pour le perdre une forme décevante. Enfin, s'il épargne son oncle en prière, c'est pour ne pas l'envoyer en paradis. Il veut tuer l'âme avec le corps. On doit insister sur ce point. Hamlet n'est pas, comme quelques-uns l'ont cru, un philosophe sceptique. C'est une âme religieuse. La métaphysique des écoles excite ses railleries. Car plus de choses sont sur terre et dans les cieux que n'en rêvent tous les philosophes. Le philosophe de la pièce est Horace. Il semble que Shakespeare l'ait mis à côté de Hamlet pour prévenir toute erreur sur ce point, comme il lui a opposé l'actif et résolu Laërte pour faire mieux ressortir son indécision naturelle. Horace n'est pas seulement un philosophe par l'égalité de son âme, son héroïsme modeste, son amitié. Il l'est encore par la tournure de son esprit, par sa conception du surnaturel, par le doute railleur avec lequel il refuse de croire à l'apparition. Le philosophe n'a que la curiosité des choses d'au-delà. L'homme religieux en a l'inquiétude. Cette inquiétude poursuit partout Hamlet. L'idée de la providence et celle de la mort remplissent son âme. L'endroit du monde où il se sent le plus à l'aise, c'est le cimetière. Dès le premier acte, quand, dégoûté de la vie, il cherche à se tuer, c'est un scrupule religieux qui l'arrête. Une seconde fois, au troisième acte, sa pensée se reporte vers le suicide, dans le célèbre monologue « Être ou n'être pas ». Cette fois encore, c'est une crainte religieuse qui le réconcilie avec l'existence. Sa foi dans la providence est si forte qu'elle devient presque du fatalisme. Il existe une divinité qui de tous nos desseins détermine l'issue. Quelque ébauche qu'ils aient de notre main reçue. Et ailleurs, un passereau ne tombe pas sans un arrêt spécial de la providence. Cette remarque ne jette-t-elle pas quelque lumière sur les motifs de ces tergiversations? Cette croyance dans un pouvoir céleste qui nous mène à notre insu et dont nous sommes jamais que les instruments ne doit-elle pas paralyser l'action? À quoi bon s'efforcer puisque la providence se charge d'agir pour nous et par nous? Voilà l'explication de ces vers autrement si obscurs. Est-ce oubli bestial? Est-ce un scrupule étrange d'envisager l'issue avec trop de clarté? Scrupule qui contient trois parts de lâcheté pour une de raison? Cette part de raison, c'est la confiance dans la justice divine. C'est aussi l'hésitation à se charger d'une exécution terrible qui, après tout, est elle aussi un crime. Le païen implacable de la légende est devenu un chrétien, et un chrétien scrupuleux, inquiet, toujours occupé à s'analyser, à peser la valeur morale de ses actes, de ses idées même. C'est le conflit de ce chrétien avec l'homme naturel, comme on l'appelait, qui rend si dramatique la situation de Hamlet. Ainsi, toutes les contradictions dans le caractère de Hamlet sont réelles. Le critique ne doit pas chercher à les atténuer. Reste à savoir s'il faut en faire un reproche au poète, soit à Shakespeare, soit à l'auteur inconnu qui, le premier, imagina de s'écarter sur ce point essentiel des données de la légende. Remarquons d'abord que Shakespeare est responsable de sa conception de Hamlet, quand bien même il l'aurait puisé dans une pièce plus ancienne. Ailleurs, il ne s'est pas fait scrupule de changer complètement et même de travestir des personnages connus de l'histoire. Comment aurait-il hésité à modifier le caractère d'un héros aussi obscur que Hamlet? On comprend qu'un auteur plus ancien lui ait légué une intrigue dont il n'ait pas cru devoir dévier pour ne pas dépayser le public. Mais Shakespeare, s'asservissant à reproduire trait pour trait un caractère qu'il savait faux, malvenu, hybride, c'est là une hypothèse ridicule et qu'on doit écarter sans autre examen. Faut-il donc penser que Shakespeare s'est vraiment trompé? Que la nature qu'il attribue à Hamlet est inconciliable avec le rôle qu'il lui fait jouer? Qu'entraîné par cette veine de mélancolie qui créait, à la même époque, le Jacques de As You Like It, le duc de Measure for Measure, le Timon d'Athènes, il n'est pas songé à mettre d'accord le caractère avec l'action? Le personnage qui pense avec celui qui agit? Plus d'un s'est rangé à cette opinion, surtout parmi ceux qui voient dans Hamlet l'image de Shakespeare lui-même. Il s'y serait peint dans une de ces crises de découragement et de misanthropie qui ne devait que trop souvent se produire dans cette vie pénible et ingrate d'auteur et de directeur de théâtre. Il serait là comme Molière s'est mis, dit-on, dans Alceste ou dans Arnolphe de l'École des femmes. Aucun fait positif n'autorise cette manière de voir. Le peu que nous savons de la vie de Shakespeare nous montre que si sa carrière fut difficile, son âme fut sereine. On peut croire que beaucoup de réflexions philosophiques mises dans la bouche de Hamlet expriment les idées mêmes de Shakespeare. Mais Hamlet lui-même n'est pas plus Shakespeare que ne l'est Mercutio. Au reste, cette hypothèse ne ferait que déplacer la difficulté et les contradictions resteraient tout aussi frappantes dans Shakespeare que dans Hamlet. Dans cet embarras, il est un fait extraordinaire qui peut nous être de quelque secours. Hamlet n'est pas le seul caractère contradictoire de la pièce qui porte son nom. Bien plus, il n'y a pas un personnage, si l'on excepte Horace, qui ne soit plus contradictoire que lui. Le roi est un mélange étonnant de majesté et d'ignominie, d'astuce et d'imprévoyance, de perversité et de remords. La reine est une femme criminelle et une mère tendre. Laërte, la vivante antithèse de Hamlet, est un brillant chevalier, un bon frère, un bon fils et un lâche assassin. Polonius est plein de bon sens et de sottises ridicules. Ophélie est chaste et chante des chansons lascives. Il n'est pas jusqu'à Fortinbras qu'il ne soit un composé de témérité aveugle et de décisions sages et promptes. Ou bien cette tragédie est vraiment, comme l'a cru Chateaubriand, un royal Bicêtre, ou bien il y a là une conception particulière et réfléchie de la nature humaine qui mérite d'être examinée de plus près.